Le Maghreb décrypté avec Hasnia Abidi.
Bonjour et bienvenue dans le Maghreb décrypté avec vous, Nadia Benchekh. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque semaine, Hasnia Abidi, spécialiste du monde arabe. Il dirige le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Bonjour Hasnia Abidi.
Bonjour Nadia Benchekh.
Direction la Libye et un rendez-vous qui a fait parler de lui récemment, le Libya Energy and Economic Summit, organisé à Tripoli fin janvier, sur scène, des annonces spectaculaires, un accord de développement sur 25 ans avec Total Energy et ConocoPhillips, plus de 20 milliards de dollars d'investissement, selon le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba, et une projection de plus de 376 milliards de dollars de recettes nettes sur la durée. Sur le papier, la promesse est claire, relancer un secteur énergétique en quête de stabilité et augmenter la capacité de production via Waha Oil. Et dans la foulée, début février, la Libye a attribué de nouveaux blocs d'exploration à plusieurs majors lors de sa première ronde de licence depuis 2007. Mais derrière les chiffres, une question, que vaut cette promesse économique et pourquoi suscite-t-elle aussi une controverse en Libye? C'est ce qu'on décrypte aujourd'hui avec vous, Hasnia Abidi. Alors, première question, ce sommet de Tripoli, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un rendez-vous annuel. Le dernier a eu lieu en Italie, pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Et c'est un rendez-vous qui est censé être plutôt économique pour encourager les investisseurs étrangers à venir en Libye, mais pour surtout s'insérer dans l'économie internationale. La Libye a souffert, bien sûr, sous Kadhafi, d'un certain isolement international, mais aussi depuis le printemps arabe et depuis la dislocation, en tout cas, ou la division de ce pays. Donc ce sommet, il a le mérite de réunir des politiques, des chefs d'entreprise et des économistes pour parler de les possibilités d'investir en Libye.
Alors, l'annonce centrale de ce sommet, 25 ans, plus de 20 milliards de dollars d'investissement, 376 milliards de recettes nettes, que représente ce type de chiffres?
Alors, c'est des chiffres importants, les 25 milliards, parce que c'est le paradoxe de la Libye. C'est un pays qui regorge de ressources pétrolières très importantes. On parle de 347 milliards. Mètres cubes en termes de pétrole. On a aussi des chiffres très importants en matière de gaz qui n'est pas exploité. La Libye n'a pas les moyens de faire des explorations, des exploitations et aussi d'exportations. Les 25 milliards, c'est justement pour attirer les majors, plusieurs compagnies. C'est pourquoi il y avait environ 64 sociétés multinationales qui travaillent dans le domaine de l'énergie. Donc les attirer en Libye en adoptant un code d'investissement attrayant. Et bien sûr, ces compagnies vont faire de la recherche, vont faire de la recherche et l'exploitation. Il faut explorer et exploiter. Et ça, c'est important. La Libye n'a pas les moyens. C'est-à-dire le budget libyen, le trésor libyen ne peut pas assurer des montants importants pour augmenter la production de pétrole. La Libye, elle était en deçà de 1 million. Maintenant, elle est à peu près à 1 345 000 barils jour, mais on est loin des véritables capacités de ce qu'elle a comme réserve. Donc, elle a besoin d'investisseurs étrangers pour augmenter la production de pétrole en Libye.
Justement, les autorités et la National Oil Corporation libyenne visent 2 millions de barils par jour à terme, alors qu'on parle, vous l'avez dit, d'environ 1,4 million aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique concrètement en investissement, en infrastructure et en continuité d'exploitation? Et qui va le faire?
Oh, d'abord, beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'abord la sécurité. On sait que, vous savez qu'il y en a à peu près, il y en a des 16 entreprises françaises, il y en a presque le même nombre de compagnies américaines, les compagnies italiennes et aussi quelques compagnies turques. Donc on voit bien que les Libyens, ils sont allés plutôt du côté de l'Ouest et pas du côté de l'Est pour ne pas finalement brusquer les Américains. Et vous savez pourquoi? Parce que l'envoyé spécial de Donald Trump pour justement l'Afrique du Nord et l'Afrique, Moussad Boulos, était sur place, était l'invité vedette de ce sommet pour sceller l'accord. Donc finalement, les Libyens, ce qu'ils veulent, c'est rassurer d'abord ces compagnies étrangères que la Libye aujourd'hui est un pays fréquentable, que c'est un pays sécurisé, qui peut offrir une sécurité. Parce que quand on dit investissement, ça veut dire que vous avez des experts qui vont venir. Il faut aussi sécuriser les puits de pétrole. Souvenez-vous qu'il y avait beaucoup de milices, d'ailleurs, qui, de temps en temps, prenaient le contrôle de certaines exploitations pétrolières. Donc voilà, la Libye, elle a beaucoup d'ambition, mais malheureusement, sur le terrain, il reste encore des réserves des gouvernements étrangers et des compagnies étrangères sur la pertinence d'investir massivement. Et maintenant,
on entend aussi, Hassni Abidi, côté libyen, l'idée de redevenir numéro un africain en production. Aujourd'hui, on le sait, le principal producteur africain reste le Nigeria, selon les chiffres disponibles. Que dit cet écart entre récit politique et réalité des volumes ?
Oui, le récit politique, il est important pour Abdelhamid Dbeibah. Vous avez remarqué qu'il y a aussi un usage politique de la part du gouvernement de l'Union nationale de Tripoli, de cet grand événement, de cette grande messe économique et financière. Il n'aborde pas des questions politiques, mais la politique, elle était présente à travers la présence aussi de plusieurs ministres de la Turquie, de l'Égypte, mais aussi des responsables politiques de d'autres pays, et aussi italiens. Ça, c'est une chose. La capacité, elle existe. C'est-à-dire que la Libye, on peut dire que là, la moitié des réserves pétrolières en Afrique se trouvent en Libye. Et il faut rappeler une chose, c'est que le pétrole libyen est un pétrole d'excellente qualité et le coût d'exploitation et d'exploration il est moins coûteux qu'ailleurs. Et ça, c'est un élément aussi qui est très important. Voilà. Le récit, c'est pour dire pourquoi finalement les capacités ou les réserves libyennes, les atouts dont dispose la Libye n'ont pas été traduits en un discours politique ou disons qu'avec une position importante de la Libye.
Vous l'avez évoqué à l'instant, l'accord suscite une controverse en Libye. Le pays est divisé en deux camps. La question de la légitimité politique revient sur la table. On s'interroge aussi sur la répartition des revenus.
Oui, alors la question des revenus qui a fait l'objet de plusieurs réunions, comme par exemple la question de nomination du haut cadre dans plusieurs réunions d'ailleurs abritées par le Maroc, où on a essayé un petit peu de trouver des solutions à la question de la Banque centrale libyenne et bien sûr et la compagnie pétrolière libyenne. Vous avez les deux centres du pouvoir névralgiques dans ce pays-là. Le troisième point où la critique inattendue, elle vient du président Younes El Mnafi. C'est lui qui était le plus critique, basé à Tripoli. Il a dit « je refuse, en tout cas, ou j'ai des réserves sur les accords qui sont passés lors de ce sommet, parce qu'on ne peut pas tout de même parler donc, de 25 ans, vendre ou confier ce qu'on a de réserves pétrolières à des compagnies étrangères alors qu'on a des soupçons de corruption ou aussi d'une mauvaise gouvernance, en parlant bien sûr des divisions politiques. Et on lui a répondu, bien sûr, du côté du Parlement, que ici le président outrepasse ses compétences et c'est au Parlement finalement de contrôler les contrats passés par le gouvernement libyen. Donc oui, la question du pétrole, elle suscite la controverse, des polémiques et des divisions très importantes parce qu'on sait très bien qu'il y a derrière ça aussi, il y a des négociations importantes, il y a des accords avec des chiffres qui font tourner la tête, il y a la peur bien sûr des pots de vin, de la corruption et il n'existe pas un appareil fort de transparence. Les deux, bien sûr, procureurs aussi ne sont pas habilités à aller encore dans ces chiffres-là. Donc oui, c'est, en effet, il y a une certaine réserve de certains politiques de ce sommet et de la manière dont il est géré par le gouvernement de Tripoli.
Pour finir, dans les prochains mois, quels indicateurs doit-on suivre pour savoir si on est face à un tournant réel ou face à un moment d'annonce ?
C'est une autre question qui se pose. Je vous répondrai par une autre question, c'est-à-dire est-ce que la Libye est prête d'abord pour organiser des élections qui vont finalement doter le pays de nouvelles figures politiques et pas ce recyclage de, des anciennes élites politiques, les figures politiques. Le deuxième élément, est-ce que les Américains aujourd'hui, convaincus par l'importance, puisque Donald Trump est très sensible à l'approche transactionnelle, et c'est pourquoi la Libye, en tout cas, fait miroiter des projets faramineux pour les compagnies présentes, Chevron, ExxonMobil, etc. Et donc, est-ce que l'économie aussi va jouer un rôle positif pour accélérer une solution politique, pas négociée, hélas, parce que les deux parties libyennes n'ont pas réussi, mais imposée par l'étranger.
Merci Hasni Abidi pour cet éclairage.
Merci à vous.
Vous êtes, je le rappelle, spécialiste du monde arabe et dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Retrouvez l'intégralité de cet épisode en podcast sur notre site et Spotify. Merci de votre écoute et merci de votre fidélité.
C'était le Maghreb décrypté avec Hasni Abidi.